Merci beaucoup, Diane Baudin, pour l'introduction. Il me revient en effet l'honneur de clore ce colloque et l'activité de la chaire européenne du Collège de France. Je commence. La nuit du 6 au 7 octobre 1789, Louis XVI et Marie-Antoinette sont arrêtés à Versailles pour être conduits le lendemain à Paris. Cette gravure anonyme en fait foi, si on croit aux images. Élisabeth Vigée-Lebrun était à l'époque peintre en titre de la reine. Elle l'avait représentée en grand habit de cour, en chemise, dans un portrait qui a fait scandale lorsqu'elle a été exposée au salon, à la rose, avec ses enfants. Mais bientôt, en France, les têtes commencent à tomber sous le couteau de la guillotine, ou bien en effigie sous les coups de marteau. Madame Vigée-Lebrun, peintre de la reine, prend la fuite. Vous la voyez ici dans deux autoportraits. Je vais en revenir sur l'un d'entre eux. Elle aura devant elle de longues années d'exil et d'autres de pérégrination. Pendant tout ce temps, Madame Vigée-Lebrun, l'une des plus douées portraitistes de son temps, si vous permettez l'expression, s'entête de faire de tête. Le catalogue de ses œuvres, figurant en annexe de ses célèbres souvenirs, publié en trois tomes, tard, en 1835-37, recense 662 portraits, pour la plupart des têtes couronnées ou des membres de la grande aristocratie européenne, des Bourbons de Naples jusqu'aux Romanov de Saint-Pétersbourg. Je donne seulement deux exemples. Mais on est encore en 1789, je reviens donc. Et Madame Vigée-Lebrun doit penser avant tout à elle-même. Elle doit sauver sa tête. En diligence sur la route d'Italie, parmi les gens du peuple, elle se cache, dit-elle dans ses souvenirs, sous les apparences, et je cite, d'une ouvrière mal habillée avec un gros fichu tombant sur les yeux. Je tremblais, ajoute-t-elle, qu'on ne me reconnût. J'employais tout mon adresse à cacher mon visage. Grâce à ce soin et à mon costume, j'en fus quitte pour ma peur. Ce pastel conservé dans une collection privée de New York en est probablement le témoignage visuel. On y ajoute un brin de coquetterie, si vous voulez. Donc le fichu ne tombe pas exactement sur les yeux, etc. Une fois en Italie et en sécurité, elle s'en rappellera pourtant, et l'autoportrait fait pour la galerie de Florence, le voilà à droite, en porte les traces. On voit le peintre devant son chevalet en train de réaliser un portrait. Le portrait, on peut le reconnaître, c'est un portrait de Marie-Antoinette, qui n'était pas à Florence, elle était en France, en plein danger, en plein tumulte révolutionnaire. Le peintre regarde le spectateur, tandis qu'elle exhibe d'un côté ses pinceaux, et de l'autre côté, avec la main droite, elle manipule enfin le pinceau en train de peindre. C'est une mise en scène assez compliquée, parce qu'en effet, si on regarde bien la direction du pinceau, on peut se demander qu'est-ce que ce pinceau était en train d'engendrer. Hein. Le portrait en train de se faire, celui de Marie-Antoinette, ou le portrait cadre, donc le portrait dans lequel peintre et œuvre sont en train de s'exhiber devant le spectateur. La question devient encore plus pressante si on tient compte du fait que dans ces mémoire, dans ses souvenirs, Elisabeth Bigel-Lebrun raconte en effet, décrit brièvement cet autoportrait. Elle dit que sur la toile du chevalet, elle avait tracé avec de la craie blanche une première ébauche du portrait de la reine. Il y a deux aspects apparemment techniques, mais qui sont aussi des aspects symboliques à ce qui me semble. Donc si sur le chevalet se trouvait en effet seulement une ébauche à craie blanche, le pinceau mouillé en peinture n'avait pas de rôle. Donc encore une fois, donc, cette contradiction. Le dessin à craie blanche, que j'espère que vous pouvez voir, est aussi un peu un leurre dans ce portrait. On voit un peu de loin une image évanescente de la reine, mais regardez un peu ses lèvres, les lèvres sont rouges, comme un signe de vie donné à ce spectre, je dirais, blanc d'un dessin préparatoire ou d'une image de mémoire. Le rouge joue un rôle assez important dans toute la scénographie du tableau. Un pinceau au premier plan à gauche, rouge, et le grand nœud rouge qui, les trois en effet, créent un réseau assez important qui porte l'attention sur ce souci de donner vie à une représentation multiple et complexe. L'autoportrait florentin est une pièce charnière dans l'expérience picturale de Madame Vigel-Lebrun. Elle le fait d'ailleurs pour la célèbre galerie d'autoportraits des ducs de Médicis. Il recèle pour la première fois ce que j'aimerais désigner comme la découverte de la dimension fantomatique de l'art du portrait. Je vais développer cette idée en ce qui s'ensuit. Dans une étude très intéressante, Mary Sheriff a remarqué en effet que dans cette stratégie complexe de cet autoportrait de Florence, il y a parmi d'autres le motif de l'ombre, de la main du peintre, de la femme peintre qui se projette sur la toile en train de se faire, et la approcher donc ce motif symbolique au mythe de l'origine de l'art de la peinture, le célèbre mythe de Dibutade raconté par Pline l'Ancien. Et vous voyez ici une représentation plus ou moins contemporaine. Je ne suis pas tout à fait sûr que Mary Sheriff, avec la thèse de Mary Sheriff, qui voit dans l'autoportrait une mise en scène du motif de l'invention de la peinture. Donc le tableau va un peu plus loin que ça. Et je prends un peu de distance par rapport à Mary Sheriff. L'ombre de la main est sans doute importante. L'ombre, c'est une épreuve de réalité. La réalité appartient à la femme souriante qui sourit vers le spectateur. Le fichu de l'exil sur la tête, mais saine et sauve. Elle est vivante, c'est un être qui projette une ombre. Par contre, sur le chevalet, on voit seulement une silhouette floue, évanescente. Je lis encore les mémoires où elle dit « Je me peignis palette à la main devant une toile sur laquelle je trace la reine au crayon blanc. » L'image de mémoire et le crayon blanc sont, on peut le supposer, dans ce témoignage, qui ne correspond pas nécessairement à l'image, sont une matière spectrale d'un visage évanescent où le visible et l'invisible, le fantomatique, présent, le présent et l'absent, jouent ensemble. Je me permets de considérer cette œuvre comme une mise en scène d'un travail de construction spectrale et en même temps comme fruit d'une inconsciente conjuration des démons à venir, comme une espèce d'involontaire et précoce exorcisme. Dans son livre sur l'imaginaire de la guillotine, Daniel Arras avait développé l'idée selon laquelle la guillotine fonctionnait comme un colossal et sinistre chevalet, comme une perverse machine attirée le portrait de Daniel Arras. Face au brutal rituel de la monstration des têtes, on voyait ici un témoignage graphique, face à ce brutal rituel que la citoyenne Lebrun aurait à peine pu soupçonner à l'époque, sa propre démarche, loin d'être naïve, est, il me semble, porteuse de signification. Dans son autoportrait réalisé pour la Grande Galerie des Ducs de Toscane, elle se présente en tant que forgeur d'un corps royal, incertain, à la limite entre apparition et disparition. On a trop souvent considéré les souvenirs d'Elisabeth Vigée-Lebrun comme un compte-rendu coloré et foisonnant de la vie mouvementée d'un peintre de la haute. En les lisant à un niveau plus profond, elles émergent pourtant comme une espèce circonscrite, bien sûr, par un niveau stylistique correct mais limité, comme une espèce, j'ose le dire, de mémoire d'outre-tombe, sui generis. Les souvenirs publiés entre 1835 et 1837 se révéleront alors comme un texte renfermant beaucoup de surprises. Mais pour cela, il faudra visiter ces souterrains. Comme toute écriture de mémoire, les souvenirs de Madame Vigée-Lebrun sont en effet le fruit d'un exercice, je dirais, de revenance. Une sensibilité fantomatique les ponctue. Et on voit là un choix assez limité. Donc si on reprend ce texte extraordinaire, on en trouve plusieurs. Pour les limites du timing de ce colloque, je fais seulement un petit choix. 1792, le cimetière de Venise. Donc. En mai 1792, Madame Vigée-Lebrun se trouve à Venise, en exil, en compagnie de vivants de nom. Elle tient absolument de visiter, avant de quitter la ville, le cimetière des Anglais. Le compte-rendu qu'elle en offre a tout l'air d'un récit gothique. Il y a peu de romantisme ou de gothic dans les mémoires de Vigée-Lebrun, mais il y en a certains d'entre eux, et celui-ci en est un. Tout est là, j'anticipe un peu, tout est là dans ce récit, le clair de la lune, le marbre blanc des tombes, les nuages, je donne quand même le texte, où j'ai souligné ce qui m'a semblé être le plus important. Mais toute cette scénographie nous rappelle justement une structure du roman gothique anglais ou européen de l'époque, clair de lune, marbre blanc des tombes, les nuages, l'illusion d'un mouvement subreptice, dont tant plus pressante seront l'impératif et l'urgence de l'évasion. Après tout un périple, enfin, les deux, vivant de nom et Madame Vigée-Lebrun, voient une brèche et nous sortîmes charmés d'aller retrouver des vivants. Nous ne rencontrâmes que deux soldats en faction que nous laissèrent passer sans crier qui vive. C'est un très joli texte qu'il faut lire, il me semble, à sa juste dimension. Donc, heureusement, la brèche tant désirée est là, et les héros de ce récit s'empressent de l'emprunter. Je voudrais mettre ce passage concernant l'année 1792 avec un autre, se référant au tant rêvé retour à Paris, après 12 ans de pèlerinage, en 1802. Donc, second acte, Paris, 1802, le Louvre. À l'idée de revenir dans la ville qu'elle avait fuie il y a plus de 12 ans, la citoyenne Lebrun, redevenue Madame Vigée-Lebrun, est envahie, dit-elle dans ses mémoires, par, je cite, une sorte de terreur. Mais les jeux sont faits, et la voilà, vite, à peine arrivée, quelques jours après son arrivée à Paris, au Louvre. Pour avoir une impression du Louvre, donc ce tableau de Hubert Robert, de toute une série, Hubert Robert était un des amis, collègues et amis de Vigée-Lebrun, ce n'est pas vraiment le Louvre réel, c'est un projet du Louvre, un peu un Louvre fantomatique. Il ne correspond pas exactement au Louvre réel, mais l'image est encore plus importante à cause de cet aspect de projection imaginaire. Le musée réel, il faut s'imaginer donc Madame Gellébrun entrant dans ce monde imaginaire. Le musée réel avait reçu entre-temps des changements importants, et son imaginaire également. La visite de Madame Gellébrun a tout l'air d'une incursion dans un monde intermédiaire. Le texte le dit. Elle erre dans cet espace jusqu'au moment où, elle se perd et jusqu'au moment où le musée ferme. Elle est prise par l'angoisse de rester renfermée dans ce musée. À l'idée qu'il me faudrait passer la soirée et la nuit avec elle, donc avec les statues et les tableaux, la frayeur, le désespoir s'emparent de moi. Enfin, après avoir fait 1000 détours, j'aperçus une petite porte, une brèche dans le cimetière, une porte au musée, heureusement. Donc, heureusement, Madame Gellébrun a trouvé cette fois-ci encore cette brèche, la petite porte, lui permettant de s'évader du règne des fantômes. Il faut voir ici une espèce de prologue de l'histoire qui va s'en suivre. L'année suivante, elle quittera Paris pour Londres. Elle dira, dans une très belle phrase, et on comprend très bien maintenant cette psychologie de migrante qu'elle avait reçue entre-temps, elle quitte Paris pour Londres et elle dit « Les séjours des villes me tuent, et les grands chemins me guérissent. » La voilà donc devenue migrante. À Londres, en 1803, elle sera, en 1805, de nouveau à Paris. Troisième acte, le tableau vivant. La vie continue, il faut s'amuser. Comment ? On est à l'époque où, par exemple, les fantasmagories de Robertson faisaient rage. Et Madame Gellébrun en propose une variante. Une citation de ses souvenirs le disent. Elle imagine une soirée de tableaux vivants, vous le voyez, elle imagine un voile de gaz, hein, que des beaux hommes et des jolies femmes, derrière lesquels se trouvaient ces silhouettes. Une autre fois, elle imagine un autre jeu avec un dispositif de coiffure, des personnages historiques, hein, où elle fait des trous où on pouvait passer un visage. Donc, on est apparemment dans le contexte d'un jeu de société. Est-ce qu'il y en a plus que ça ? C'est une question. Il faudra peut-être premièrement bien cerner le contexte et l'héritage, donc la base sur laquelle Madame Gellébrun, à Paris en 1808, propose ce genre de jeu de société. Les fantasmagories de Robertson, qui faisaient rage, sont un exemple, mais il y avait aussi d'autres témoignages, par exemple les expériences d'un Cosenz, Alexander Cosenz, qui était un peintre et un théoricien anglais, qui avait imaginé dans les années 70-80, dans un célèbre manuel concernant la beauté, le rapport entre le visage et la coiffure. Et il propose dans ce livre assez intéressant, qui est formé par des transparents, justement, qu'elle reprend après dans les voiles qu'elle propose. Donc le livre de Cosenz propose justement un jeu sur lequel, ça vous donne une image, on pouvait placer certaines coiffures en changeant par là la physionomie du portraituré ou de la beauté codifiée par ce livre. C'est un jeu, c'est clair, un jeu de l'Ancien Régime, je dirais. Madame Gellébrun le reprend avec des bizarres effets, je dirais, transgenres. Et je voudrais maintenant vous citer, j'espère que tout est bon ou non, j'ai la citation quand même quelque part, l'expérience qu'elle propose. Je résume. Une des beautés qu'elle propose comme beauté filtre pour les jeux de société qui vont s'en suivre est la célèbre Ninon de l'Enclos, donc célèbre beauté de l'Ancien Régime, qui revient de cette façon dans une mise en scène à cause du fait que dans une silhouette de ce genre, pas nécessairement dans cette gravure, mais on peut s'imaginer, donc il faut nous-mêmes nous soumettre à un processus, un exercice d'imagination, dans le récit de Madame Gellebrun, dans cette projection de cette célèbre beauté, le visage qui se projette à travers tout un système de filtres est le visage de Hubert Robert, qui était le peintre et architecte partiellement du Louvre. Donc il y a là comme une expérience, je dirais, transgenre. Ninon de l'Enclos revient donc dans un autre corps, avec une autre tête, dans un corps et dans une tête d'homme. Je n'ai pas pu faire moi-même le collage, ça aurait été un peu trop brutal, il me semble, mais il faut s'imaginer, et je vous invite de le faire. Donc, par rapport donc à ces témoignages visuels dont on dispose. Mais il faut considérer aussi le commentaire de la mémorialiste. Après avoir décrit le dispositif et le jeu, elle ajoute quelque chose. Je ne sais pas si j'ai... Non, je ne l'ai pas. Mais peu importe, je peux résumer. Elle ajoute quelque chose. Il fallait s'amuser, dit-elle, quand même, pour éviter de parler sans cesse politique. Donc, ce jeu est un substitut d'un discours politique, donc c'est une façon ludique de remplacer un discours politique. Dans le tableau vivant que la fantasmagorie, justement, sont des exercices de révérence qui se substituent donc, dans un registre ludique au débat politique. Ce genre d'exercice émerge d'ailleurs ça et là dans les interstices des souvenirs de Madame Gellebrun. Par exemple, elle prépare aussi des jeux semblables à Saint-Pétersbourg, assez loin de Paris, pour pouvoir se permettre, disons, dans la grande cour des tsars, des jeux de cette espèce. Parfois, néanmoins, le jeu tourne au sérieux. Quatrième acte. On est à Vienne. Je fais un peu des allers-retours chronologiques. On est à Vienne dans l'année cruciale, 1793, et dans le cabinet de la figure en cire. Il s'agit d'un épisode donc placé à Vienne et dont le héros est le baron Grigori Alexandrovitch Stroganov, gentilhomme de la chambre impériale se trouvant à l'époque à Vienne. Voilà le portrait. Et voilà le commentaire de la femme peintre. J'ai peu connu d'homme plus aimable, plus gai, que le baron de Stroganov. Quand le désir de rire et de s'amuser lui prenait, il inventait toutes les folies imaginables. Madame Gellebrun lui fait le portrait et tombe évidemment sous le charme de ce jeune homme. Mais une de ses folies tourne vers le macabre. Regardons le texte. Un jour, entre autres, sachant que plusieurs personnes de la société et moi devions aller visiter le cabinet de figure en cire, que je n'avais pas encore vu alors, il s'excusa sous un prétexte de ne pouvoir nous accompagner. Prenant l'avance sur nous, il alla se placer dans ce cabinet, derrière un piédestal, de manière qu'il ne laissait voir que sa tête. En parcourant la galerie des portraits, nous passons devant lui, mais il avait donné à ses yeux une telle fixité et tant d'immobilité à tous ses traits qu'aucun de nous ne le reconnut. Après avoir visité les autres salles, nous repassâmes une seconde fois sans le reconnaître davantage, mais alors, impatientés de notre intention, voilà qu'il remue et qu'il parle. Nous fûmes presque tous effrayés. Alors, on peut imaginer facilement l'effet de ce jeu. Si on fait aussi l'effort de reconstituer au moins en imagination, l'imagination historique, de quoi il s'agissait dans ce cabinet de figures de cire. Je vous en montre une. Donc c'est quelque chose de ce genre que Stroganov avait imaginé. La mémorialiste passe très vite, même trop vite il me semble, sur l'épisode, dont la véritable portée se révèle dans toute son ampleur, seulement quelques pages plus loin. On est, je l'ai anticipé un peu, dans l'année terrible 1793, et à Paris, les têtes tombent. Le tour joué par l'insouciant baron Stroganov ne se distinguait certes par son bon goût, je dirais. À Vienne, le théâtre de la guillotine peut sembler loin, mais pas pour Elisabeth Vigée-Lebrun. Elle en sera hantée, et d'ailleurs, elle le dit dans ses mémoires, toutes les nouvelles qui lui arrivent de Paris, les frais, l'arrestation de Marie-Antoinette, je l'appuie à travers quelques documents iconographiques, ou même sa décapitation. Mais ce sont des récits qu'elle ne veut pas écouter, et des images qu'elle ne veut pas regarder, mais qui déclenche quand même dans ce mécanisme de refus un processus fantasmatique qui touche au cœur même des son art de portraitiste. C'est dans ce sens qu'il faudra relire les pages qu'elle déploie sur son imaginaire royal. Ces pages font revivre les portraits créés jadis, mais bien avant la Révolution, mais sont en réalité des exercices de revenance. Donc, elle parle, donc je cite quelque chose qu'elle écrit, elle publie vraiment à la fin du XVIIIe siècle, même au début du XIXe, en se rappelant de la reine. Alors, je voudrais lire ce passage. Justement parce qu'il me semble que le passage lui-même lit d'habitude comme un passage quelconque de souvenir d'une femme peintre, cache quelque chose de plus. Alors, voilà le passage. « Je vis la reine. » Elle est peut-être à Vienne, à Londres, je ne me rappelle pas exactement quand et où, mais « Je vis la reine dans la plus grande parure, je l'accompagne du tableau officiel de Marie-Antoinette, couverte de diamants et comme un magnifique soleil éclairé. Elle me parut vraiment éblouissante. Sa tête élevée sur son beau col grec lui donnait en marchant un air si imposant, si majestueux, que l'on croyait voir une déesse. » Il y a la suite de ce passage, mais je m'arrête ici. La dimension fantomatique de l'art du portrait était, me semble, j'en suis sûr, un acquis de la plus ancienne théorie de l'art. Au XVe siècle, déjà pour Léon Baptiste Alberti, la peinture, et je donne une citation très célèbre, mais à mon opinion jamais lue dans ce contexte, donc déjà pour Léon Baptiste Alberti de la Pittura, la peinture, dit-il, a en elle une force tout à fait divine qui lui permet non seulement de rendre présent, comme on le dit de l'amitié, ceux qui sont absents, mais aussi de montrer après plusieurs siècles les morts aux vivants, de façon à les faire reconnaître pour les grands plaisirs de ceux qui regardent dans la plus grande admiration pour l'artiste. Alors, Elisabeth Vigée-Lebrun n'invente pas la technique du fantomal, mais la pratique, il me semble, la cultive et la consacre. Et en sont les preuves, les deux représentations posthumes de Marie Antoinette. La toute première, c'est un tableau allégorique fait pour la vicomtesse de Châteaubriand. On dispose aujourd'hui seulement d'une mauvaise reproduction et c'est presque un hasard le fait que ce portrait, l'apothéose de Marie-Antoinette, est devenu un fantôme lui aussi à travers sa disparition. Il a été documenté jusqu'à un certain moment et puis par miracle il a disparu. On a cette photogravure qui en fait foi. Donc la fantôme d'un portrait, si vous voulez. Je voudrais quand même lire, si je serais capable de trouver le texte, comme je l'espère. La description que le peintre fait dans ce mémoire, je ne trouve pas le texte, mais peu importe, je me le rappelle. J'ai un texte fantomatique dans ma tête aussi, si vous permettez. Elle raconte en effet qu'elle représente Marie-Antoinette en apothéose, se dirigeant vers le ciel, où elle est accueillie par son époux, Louis XVI, et par un des enfants. C'est une iconographie, c'est clair, qui fait appel à toute une tradition de l'Assomption de la Vierge. C'est une femme flottante dans l'air, ce n'est pas un portrait, c'est un portrait ou un tableau allégorique. Un portrait de souvenir, elle le dit expressément dans son texte. Une autre œuvre posthume de Marie-Antoinette, réalisée vers 1800, à l'intention de la duchesse d'Angoulême, cette fois-ci, qui était la fille aînée de la reine, est un peu différente. Voilà le texte. Heureusement. Marie-Antoinette était peinte montant au ciel. À gauche, sur les nuages, on voit Louis XVIII. Alors peut-être, pourquoi pas, on est tard, allusion aux deux enfants qu'il avait perdus. Voilà. L'autre portrait, c'est un portrait posthume, venu récemment à jour grâce aux recherches de Joseph Bayot. Qui, selon les mots du peintre elle-même, était encore une fois une image faite de souvenirs, dit-elle. C'est une petite icône de dévotion privée, je prends cette expression d'une jolie étude de Gerrit Waldsack, donc une petite icône de dévotion dont la signification par rapport au conseil pour les peintres qu'elle va intégrer dans ce souvenir mérite d'être interrogée de plus près. Alors, à la fin de ses mémoires, à la fin de ses souvenirs, mais on est déjà en 1837, Madame Gellerbrun avait presque 40 ans lorsqu'elle publie finalement ses mémoires. À la fin de ses souvenirs, elle intègre des conseils pour la peinture du portrait. Alors, il faut faire attention, ce sont des conseils, on est donc en 1837, 35, 37, l'année de la publication, elle parle de sa propre expérience. C'est quoi un portrait? Comment est-ce qu'il faut rendre un portrait? Donc, il faut projeter a posteriori cette recette apparemment technique. Je pense de la voir ici. Le texte est assez long, mais à un certain moment, elle dit « Tant que vous travaillez à la tête d'une femme, si elle est vêtue de blanc, et j'ai choisi cette citation justement parce que cette femme est vêtue de blanc, mettez sur elle une draperie de couleur absente, c'est-à-dire grise ou verdâtre, ce n'est pas le cas ici, on peut se demander pourquoi, afin de ne pas distraire les rayons visuels et qu'ils puissent se reposer seulement sur la tête du modèle. Si cependant vous la peignez en blanc, laissez-en un peu pour la tête qui doit en être reflété. C'est apparemment une recette technique, mais qui concerne en principe le portrait et qui fait d'une certaine façon exception au moment où le portrait est un portrait de souvenir, un portrait d'imagination. C'est un portrait blanc, je dirais, qui défie les règles. Et la raison de ce défi en est assez évidente. Il s'agit, il me semble, d'un portrait d'une revenante. Une revenante, non pas encore, pour utiliser le langage de la théorie contemporaine, du fantasme, il y en a une très riche, mais une revenante en image. Faire revenir en image est tout un art. Alberti, on l'a vu, le savait déjà, et Madame Gellerbrun en glose. Encore un passage très riche que je ne voudrais pas lire dans toute sa complexité. Peut-être justement la toute dernière phrase, après tout un exposé, encore une fois apparemment technique, il ne faut jamais empâter les prunelles. Les prunelles doivent rester donc vivantes, jamais empâter les prunelles. On peut lire certains passages de ces conseils comme un involontaire programme de l'art fantomal qui place Madame Gellébrun au rang des grands maîtres de la revenance. Merci beaucoup de votre attention pendant tout ce colloque et aux participants.